À visage découvert, l'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.
Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis très très ravie de vous retrouver. Bienvenue dans votre émission À visage découvert. Et À visage découvert aujourd'hui, vous allez les découvrir avec nous. J'ai l'énorme plaisir de recevoir trois femmes, et pas des moindres, qui ont osé l'engagement citoyen, municipal oblige. Nous allons justement, à 4 mois des municipales de 2026, les interroger justement sur les enjeux de ces municipales. Mais en attendant, on va les présenter très rapidement. Trois femmes au parcours inspirant. Il s'agit de Fadela Béal, de Jocelyne Adrian, Mebtoul et de Nadia Sultani. Bonjour et bienvenue, tout ensemble.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Voilà qui est dit. Donc je m'adresse à vous tout d'abord, Fadela Béal. Vous présidez les Mariannes de la diversité. Donc on va revenir sur l'événement que vous organisez au courant de la semaine. Mais en attendant, un mot sur votre parcours, sur vous. Donc vous avez fondé les Mariannes de la diversité. Vous êtes née à Cherchel, une très belle ville côtière en Algérie. Vous avez fait vos études à Alger, à l'école de journalisme, et puis bien sûr au CELSA en France. Issue d'une famille d'immigrés, père commerçant, mère au foyer, donc issue d'une classe sociale moyenne plutôt, on va dire ça comme ça, mais vous êtes une femme du Nord, hein. Vous êtes de Lille plus exactement.
Une ch'ti, comme on dit.
Une ch'ti, voilà, j'osais pas le dire, mais c'est une ch'ti. Vous avez occupé plusieurs postes donc de responsabilité ministérielle, conseillère dans le cabinet de Jean-Louis Bourleau, qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui. Alors, mère de 3 enfants, et cela n'a pas empêché Madame Fadela Béal de faire de la politique et de s'engager justement. Et elle va nous dire comment elle a surfé, elle a concilié travail et vie politique. Alors, vous avez été également, donc elle a été donc en campagne avec la casquette de Bayrou, donc du MoDem. C'est pratiquement, elle a été parmi les premiers fondateurs de,
oui, Canal
du MoDem. Canal historique, voilà, oui. Vous l'avez arraché de la bouche. Vous avez rejoint donc cette formation politique qui était hyper bien placée à l'époque, et elle l'est aujourd'hui aussi. Et vous avez été donc conseillère dans l'opposition, conseillère de Paris. Voilà. Donc dites-nous, comment vous avez jonglé entre les deux? Vous avez fait 3 enfants.
Alors, je voudrais apporter une toute petite nuance pour dire que je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans. Donc, toutes mes études, que ce soit la primaire, le secondaire et le bac, je les ai obtenues ici, dans le Nord, justement. Et c'est à 18 ans que j'ai souhaité rentrer en Algérie pour mieux connaître ce pays, parce que j'avais, et vous savez que combien les jeunes aujourd'hui sont taraudés par les questions identitaires, et moi c'est une question que j'ai résolue à 18 ans en allant, et notamment en faisant des études supérieures en Algérie. Donc ça me donne un regard extrêmement apaisé par rapport à cette double culture. Alors comment j'ai fait? Alors il faut que je vous dise que ce qui est important quand on mène comme ça plusieurs combats, c'est d'avoir une stabilité affective et d'avoir la possibilité et la chance d'avoir une famille, et notamment une famille aimante, pour vous aider à pouvoir conjuguer tout ça. Donc moi, je rends hommage à mon mari, qui malheureusement n'est pas de la même obédience que moi politiquement, parce qu'il est très proche de Jean-Luc Mélenchon.
Mais donc il y avait de l'ambiance chez vous.
Il y a une très grande ambiance,
belle ambiance,
mais
oui,
avec quelque chose qui nous a, je dirais, réunis, c'est la volonté de faire quelque chose pour le bien public. Et donc, je l'ai déjà souvent dit, que j'ai toujours privilégié ma vie professionnelle dans un premier temps. En élevant mes... Alors, vous dites 3 enfants, mais j'en ai élevé 4, puisque mon mari avait déjà un enfant. Et donc, ça n'a pas été facile, mais je pense, et ça, je le tiens de ma mère, qui m'a toujours dit, il faut avoir une autonomie financière, il ne faut dépendre de personne, surtout quand on fait de la politique. Donc, la politique est venue après.
Bien après, c'est une vocation, c'est une
Alors,
passion,
la politique, c'est l'humanisme.
Métier,
oui. J'ai choisi François Bayrou par humanisme, comme Jean-Louis Borloo.
Oui.
Pour moi, c'est plus important d'avoir l'homme et l'humain au cœur de notre recherche politique que d'avoir une idéologie qui pourrait, en tout cas, d'une certaine façon, nous couper des réalités. Et le monde associatif est venu après les émeutes des banlieues. Vous savez, quand on a vu cette France à feu et à sang en 2005, où les femmes se sont levées pour apaiser la colère qui grondait dans le cœur de leurs enfants, et ce sont elles qui ont permis. Et,
on aura le temps de revenir sur ça, justement.
Oui, et c'est à partir de là que je me suis dit, il y a vraiment une force dans ces quartiers, il faut... faut travailler avec.
Ben, d'où les Mariannes qui célèbrent, qui fêtent l'année prochaine, donc c'est leur 20 ans. Voilà, 20 ans dans le cadre du militantisme associatif. À vos côtés, je le disais, donc Nadia Soltani, adjointe au maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, que nous saluons, qu'on a eu l'occasion de recevoir. Un combat et un militantisme, bien sûr, mené aux côtés de ce maire depuis le début, avec les communistes, parce que cette ville, Saint-Ouen, il faut le dire, elle était d'abord communiste. Alors, pour vous présenter, vous êtes maire, alors là, vous avez battu tous les records, 5 enfants. Voilà, il faut le faire. Hein. 5 enfants, vous allez nous dire comment vous avez surfé sur les deux. Vous êtes né à Annaba. Annaba, c'est une très belle ville aussi dans l'est de l'Algérie. On l'appelait autrefois Bonne la Coquette, que vous n'avez pas visité.
Pas encore.
Ouais, pas encore. Ben, ouais, voilà. Elle est là, mais elle ne connaît pas encore suffisamment bien ses origines. Donc,
si, quand même.
Ah ben oui, quand même. Arrivée très très jeune, donc à l'âge de 4 ans, de père ouvrier, de maman, j'imagine, au foyer, parce qu'il fallait qu'elle s'occupe des enfants. Et votre maman a fait 3, elle n'a pas fait 5. Donc vous avez battu un record. Votre papa était donc ouvrier chez Félix Potin. Vous avez un BTS de gestion et vous travaillez chez Natexis. C'est dire que vous avez un métier avant justement d'être cette militante à Saint-Ouen depuis déjà 4 mandats et vous arrivez à votre 5e mandat. Vous allez nous dire comment vous faites tout ça. Alors toutes les femmes qui vous écoutent vont dire c'est pas possible, elle devait avoir une gouvernante ou un mari... corvéable. Bon, bah, j'anticipe non, sur non, votre
c'est,
réponse.
C'est une réponse très, très simple. En fait, je ne me suis jamais posé de questions. J'ai fait les choses et j'ai pris les choses telles qu'elles venaient. Donc, j'ai milité avant d'être élue. J'ai fait des enfants, je fais des études. J'ai fait des enfants au fil de l'eau et ils m'ont accompagnée dans ce militantisme, même s'ils ne font pas de politique. En tout cas, ils ont aussi aujourd'hui des valeurs que j'ai transmises et des valeurs d'engagement autres que la politique. Donc, c'est quelque chose...
Et ils ont toutes réussi dans leur scolarité, visiblement. Hein.
Oui, voilà, ils ont une scolarité qu'ils ont choisie, qu'ils ont menée. Donc, ils font le métier qu'ils aiment. C'est le plus important. Et c'était nos devoirs de parents de les accompagner
Donc,
à leur chemin de vie.
Donc, ça n'a pas été un frein pour vous, en fait, la Big Family?
Non, au contraire, c'est un choix. C'est souvent... on posait souvent la question, mais comment tu vas faire? Ben non, mais c'est un choix.
Donc, on va à la réunion le soir, comment vous faisiez? C'était voilà, papa alors, qui s'occupait des enfants,
effectivement, j'ai eu la chance d'avoir dans mon couple un équilibre qui me permettait de pouvoir m'épanouir dans mon engagement. Et puis mon conjoint, lui, il avait une passion pour le sport. Donc voilà, c'était chacun sa passion. Et on respectait les passions communes de l'un et de l'autre.
Et le secret de tout ça, vous ne l'avez pas encore révélé? Vous avez dit, vous avez beaucoup d'énergie. Beaucoup de femmes qui sont à l'écoute et qui ont beaucoup d'énergie, mais qui n'arrivent pas
à jouer sur les deux. Un secret. Alors, jouer sur les deux, c'est. Je pense que j'ai jamais réussi à faire des choix. Je pense que c'est peut-être là le secret. Même aujourd'hui, je ne sais pas choisir entre une carrière politique, une carrière professionnelle. Être maman, je voulais tout à la fois et du coup j'ai essayé de mener tant bien que mal avec bien évidemment les problématiques qu'on peut connaître au quotidien comme toutes les mamans. Hein, voilà.
Et donc, vous êtes aujourd'hui adjointe donc, au maire de Saint-Ouen et vous êtes chargée du logement et votre combat c'est l'habitat indigne.
Ouais, logement et l'habitat indigne parce que le logement c'est une passion pour moi, ça renvoie à mon enfance.
D'accord.
Et je suis née dans un bidonville à Saint-Ouen. En fait, j'ai grandi et j'ai la mémoire. J'avais peut-être 6 ans, 7 ans. Voilà, j'ai cette mémoire-là et ces images qui sont restées.
Ouais.
Ensuite, on a quitté les bidonvilles pour aller dans des immeubles qui venaient d'être construits pour sortir justement ces familles et avoir un petit peu le confort qui qui n'existait pas.
Et aujourd'hui, il n'y a plus de bidonville à Saint-Ouen, c'est une ville...
Non, il n'y a plus de bidonville.
Mais totalement transformée par l'actuelle
maire. On est loin des bidonvilles et on est loin des usines qu'on a connues dans les années 60-70.
Ouais.
On est dans une ville qui s'est complètement transformée et qui est aujourd'hui tertiarisée et pour lequel on a de grandes enseignes et de grandes entreprises aujourd'hui.
Bien sûr, et avec les JO, on a entendu parler de Saint-Ouen, effectivement. Hein, vous avez une bonne partie du village olympique de ces JO 2024 qui ont propulsé, il faut le dire, le maire de Saint-Ouen,
hein,
qui a accueilli toute la presse américaine. Bien, on va revenir à vous. Mais en attendant, nous avons une grande dame avec nous, Jocelyne Adrian Meptoul, donc mariée à M. Meptoul, qui est algérien. Mais elle vient d'une ville, mais elle m'a dit, c'est pas la Bretagne, vous allez me dire de quelle ville vous venez, Jocelyne?
Oui. Bonjour, merci de m'avoir invitée d'abord.
On est très très ravis et très honorés de vous recevoir, chère
Alors Jocelyne. Oui, je suis mariée avec un certain Mohamed Meptoul, effectivement, que vous connaissez bien, parce qu'il est effectivement dans le milieu de l'audiovisuel, il a été réalisateur de télévision toute sa vie et il est aussi engagé sur les questions d'intégration, d'immigration, etc. depuis fort fort longtemps.
Ouais.
Et sans doute que son exemple m'a dû aussi me titiller de mon côté parce que moi, je viens de la ville de Troyes, dans l'Aube. C'est une ville de Champagne.
Ouais.
Donc, Fadela me regarde parce que elle sait que j'aime bien le champagne.
Mais vous avez raison, d'aimer le champagne. Ouais.
Et puis, je suis bretonne d'adoption, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure avant qu'on fasse l'émission. Parce qu'on est tombé amoureux d'une petite maison face à la mer, dans les Côtes d'Armor, et que c'est notre petit paradis à nous. Voilà.
Magnifique, bien sûr, un peuple marin ouvert sur le monde et sur l'extérieur.
Alors, justement...
Justement, on va continuer à vous présenter, parce que vous avez un parcours, j'ai envie de dire, mais impressionnant. On va dire l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous êtes aujourd'hui connue comme une grande experte en matière d'égalité femmes-hommes. Et vous avez fait déjà deux mandats au HCE, au Haut Conseil à l'égalité.
Oui.
Vous êtes aujourd'hui observatrice au sein du HCE. Mais avant ça, vous avez été journaliste, vous avez fondé une ONG pour les femmes dans le monde. Vous avez été également présidente de la CLE, qui est donc la coordination française pour le lobby européen des femmes. Et j'en oublie des choses, j'imagine. Vous avez occupé des postes dans des cabinets ministériels, toujours avec justement cette expertise que vous avez sur la problématique de l'égalité femmes-hommes. Et aujourd'hui, vous êtes observatrice, mais j'ai justement retenu une phrase qui m'a vraiment titillée, que vous dites que l'égalité entre femmes et hommes n'est pas atteinte nulle part sur la planète à ce jour.
Oui,
voilà qui nous plonge dans la transition est toute faite pour parler de l'actualité. Nous sommes justement quelques jours du 25 novembre, qui est donc la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une convergence de lutte sur cette problématique?
Alors complètement,
Jocelyne Adrian.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, sur l'ensemble de la planète, il n'y a aucune égalité réelle avérée. Que ce soit les Suédoises ou les Afghanes, malheureusement, avec évidemment des nuances et dans des registres différents entre les deux.
Mais
je prends les Suédoises parce qu'elles font partie des trois pays les plus avancés en matière d'égalité.
Oui.
Je prends l'Afghanistan parce que il est un des derniers pays
où les femmes n'ont même pas le droit à l'école.
Bah, elles n'ont même pas le droit. Elles n'ont droit à rien. Elles n'ont pas le droit de vivre.
Oui, oui,
elles ont
simplement.
Elles ont même plus le droit de respirer puisqu'elles n'ont plus le droit de parler. Ou sortir en public seule. Donc malgré tout, il continue à y avoir des inégalités en Suède, des violences. Et les violences, elles sont partout. Elles sont les violences en temps de paix et beaucoup de violences conjugales ou intrafamiliales, mais aussi en temps de guerre. Je pense aux Congolaises, je pense aux Syriennes, je pense aux Yéménites, je pense aux Soudanaises.
Aux Palestiniennes.
Aux Palestiniennes, absolument. J'ai fait un webinaire là-dessus l'été dernier, justement, avec une médecin gynécologue qui était sur place à Gaza et qui expliquait comment elle essayait de continuer à sauver des femmes allaitantes ou en train d'accoucher et des enfants malgré le manque de matériel, etc.
Jocelyne Adrien, avant de marquer une pause et bien sûr d'aborder les sujets d'actualité, et ils sont nombreux, alors dites-nous justement le HCE, pour ceux qui ne connaissent pas ce machin, j'ai envie de dire le Haut Conseil à l'égalité, ou parce que vous ne communiquez pas trop, ou alors il ne se passe rien du tout à l'intérieur.
Alors il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Enfin, moi j'ai fait deux mandats effectivement en tant que président de la commission internationale du Haut Conseil à l'égalité, mais de manière générale, et aujourd'hui je suis observatrice puisqu'on ne va pas au-delà de deux mandats, et c'est très bien, place aux jeunes, mais je suis observatrice et ce qu'on fait dans le Haut Conseil, c'est évaluer les politiques publiques de l'État français en matière d'égalité femmes-hommes.
Donc vous fournissez quoi ? Des recommandations ?
Mais des recommandations. Avant de faire des recommandations, on audite, on auditionne un certain nombre de personnes, de structures. On audite, par exemple, j'ai fait pour la commission internationale, nous avons piloté deux rapports qui sont importants, le Femmes, Paix et Sécurité, c'est Femmes, Paix et Sécurité qui est en plein sur les questions de violence.
Oui.
Puisque c'est des femmes dans la guerre, et c'est quelle est leur place dans les négociations de paix. Donc c'est un peu technique, mais du coup, ça demande effectivement à interroger les ministères des armées, le ministère de l'Intérieur, les ministères des Affaires étrangères évidemment, mais aussi des experts et des ONG humanitaires et de développement international. C'est-à-dire que on n'est pas là pour faire le buzz, c'est pas médiatique.
Vous travaillez dans la discrétion la plus totale.
Bah, oui, mais on fait va des essayer rapports et on met des recommandations effectivement.
Très bien.
Après avoir audité les personnes qui
et le on va revenir justement sur l'actualité le 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, mais la force est de constater qu'aujourd'hui encore, en 2025, il y a encore des féminicides et ils sont en hausse. Alors nous allons marquer une courte pause et bien sûr, dans la deuxième partie, on abordera toutes ces questions avec nos invités. Merci de rester à l'écoute.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques qui vous représentent dévoilent leur parcours personnel, leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, un rendez-vous bimensuel proposé et présenté par Nadia Bey sur Radio Orion.
Retour sur le plateau de votre rendez-vous d'information à visage découvert avec nos invités. Il faut le dire, aujourd'hui, c'est un plateau exceptionnel et il est exclusivement féminin. Oui, exclusivement féminin. Fadila Méal, Jocelyne Adrien-Mebtoul et Nadia Soltani. Alors, j'avais effectivement abordé la question du HCE qui fait des choses, des recommandations. Vous êtes, Jocelyne, justement, je vous ai dit, vous avez un parcours très dense, hein, bien sûr, et très important. Et vous avez fondé l'association Femmes du Monde et Réciproquement. Pourquoi Réciproquement, dites-nous ?
Eh bien, c'était un peu pour le jeu de mots, parce que Femmes du Monde toute seule, ça fait bizarre, ça fait un peu les femmes de la haute. Et Réciproquement, c'est simplement qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer si on n'est pas solidaire entre nous, sur toute la planète.
Voilà.
C'est-à-dire au-delà des frontières.
Au-delà des frontières, on va revenir justement sur justement le bilan dressé par le HCE ou par toutes les associations. La sonnette d'alarme a été tirée il y a longtemps et on voit, force est de constater, que les féminicides sont en hausse. Hein. On passe de 112 à 100, non, plutôt 103 à 107 féminicides. Donc il y a augmentation de 2 féminicides, ce qui fait qu'on a l'impression que rien n'est fait. Est-ce que vous partagez cette impression, Fadila Méal ?
Non, on ne peut pas dire ça. Moi, j'ai été canal historique à un moment donné où on parlait des féminicides. On disait c'est le drame de l'amour, c'est les crimes passionnels. Donc c'était vraiment la préhistoire. Et quand on abordait ces questions-là, on nous disait, mais non, c'est de l'ordre du privé. Ça ne concerne les couples. Donc on est sorti de ça. On considère aujourd'hui que c'est un fait sociétal et même un fait politique, hein, puisque les féminicides... moi, j'avais l'espoir qu'avec les grenelles des violences faites aux femmes, les choses allaient avancer. Je crois qu'elles ont avancé d'une certaine façon, puisque en fait, on voit bien que c'est dénoncé. Personne ne dit aujourd'hui le méritait parce qu'elle portait une jupe ou autre, ce qu'on entendait quand même de façon très très courante. Donc par contre, il reste encore des points aveugles qu'on n'arrive pas à résoudre. Et c'est vrai
que mobiliser les moyens, il faut dire les choses.
Les Mariannes de la diversité, on avait évoqué la possibilité de créer un parquet spécifique pour les violences faites aux femmes. Ça a été refusé. Je ne sais pas pour quelle raison, même avec les ministres.
Donc, formation des policiers, bien sûr, et un parquet.
Oui, mais ça se fait, ça. Il y a énormément d'argent qui est donné pour la formation. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même les féminicides. Maintenant, où elles ciblent aussi des enfants, des petites filles. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement parce qu'elles outragent évidemment leur enfance.
Mais on a tendance à oublier que les premières victimes sont les enfants aussi.
Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une proposition de loi aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de prescription pour les violences sexuelles pour les mineurs. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous allons nous militer.
Nadia Soltani, comment vous expliquez cette hausse des féminicides aujourd'hui en France en 2025, alors qu'on voit dans d'autres pays, souvent on prend l'exemple de l'Espagne, n'est-ce pas, Justine Adrien ?
C'est remarquable, le travail fait par l'Espagne est remarquable, mais il faut une volonté politique très forte.
Une volonté très forte, mais il ne faut pas oublier aussi que justement, le président de la République, Emmanuel Macron, en a fait une cause principale de son quinquennat.
Oui, effectivement, j'avais plutôt envie de dire qu'on n'est pas sur un combat de femmes, mais sur un combat pour la République. Et du coup, on replace le sujet d'une manière beaucoup plus haute. Et ce n'est plus les féministes qui parlent. On est sur une tragédie, effectivement.
Vous êtes féministe, visiblement.
Non, pas du tout. Une tragédie qui est silencieuse. Non, mais je dis qu'il faut que le sujet soit pris au plus grand large.
Et c'est, par les hommes et par les femmes.
C'est ça. Effectivement, c'est souvent porté par des
femmes. C'est un sujet de société.
C'est un sujet de société et que la République doit prendre en main. Et dans toutes ces dimensions, on voit bien que... avoir les moyens sur les plaintes. Et puis, j'ai plutôt envie de dire, pour finir, que... la maison qui doit être un lieu de sécurité, aujourd'hui, c'est un lieu de tragédie et c'est pas normal, au fait. Voilà, donc faut lever tout ça, il faut donner les moyens.
Oui. Alors, à l'échelon local, dites-nous comment ça se passe à Saint-Ouen.
Alors, à Saint-Ouen...
Est-ce qu'il y a effectivement des moyens qui sont mobilisés pour déjà accueillir ces femmes dans des hébergements d'urgence, parce que c'est le premier besoin. Oui.
Alors, étant élue au logement, effectivement, j'ai cette vision-là avec mes collègues élus en charge des droits des femmes, puisque le maire a souhaité qu'il y en ait une délégation. Et dans ce mandat-là, on a mis les moyens pour mettre à disposition des logements. Puisque je pense que la vraie question, c'est de sortir rapidement ces femmes de ces dangers-là. Donc, on a pas mal de logements mis à disposition. On a hébergé des associations qui font un travail exceptionnel à Saint-Ouen. Je salue l'association Médée, mais d'autres aussi.
Des maisons pour des femmes également, qui sont victimes de ces violences.
Et le projet des maisons pour les femmes avec des métiers pluridisciplinaires qui traitent la question des femmes d'une manière générale et des enfants, puisque souvent c'est des femmes aussi avec des enfants qui se retrouvent dans un peu ces situations qui sont un peu dangereuses.
Jocelyne Adrien, justement, je le disais, le HCE a tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, mais force est de constater qu'aujourd'hui encore, les féminicides sont en hausse. Alors, téléphone, grand danger, on dit qu'il y a eu augmentation des hébergements d'urgence. Oui. Les policiers dans les commissariats, on a tendance à dire qu'ils sont de plus en plus à l'écoute et mieux formés.
Mieux formés, oui.
Alors justement, est-ce que ça fait partie de vos recommandations ou alors il y a d'autres qui n'ont pas été concrétisées ?
Alors, au niveau français, effectivement, on dénombre davantage, on sait compter. Oui. Avant, on ne comptait pas tout ce qui était des féminicides, mais qu'on appelait, comme le disait Fadela Léal tout à l'heure, des drames passionnels. Vous pensez comme drame passionnel, il y a mieux. Donc c'était vraiment des féminicides. Maintenant, on les compte. Donc les compter, ça veut dire être capable de mettre un nom sur la chose.
Mais c'est déjà mobiliser un vrai budget, parce qu'on donnait l'exemple de l'Espagne. L'Espagne a mobilisé un budget très conséquent. Et on le voit en termes de résultats. Aujourd'hui, il y a moins de féminicides, alors que c'était un pays qui détenait la palme des féminicides.
J'étais avant-hier, justement, à Laval, ouais. pour faire une conférence sur les violences et les traités européens, les questions ouais. qui protègent.
Et
avec l'Espagne, justement, c'est vraiment un modèle, mais ils ont mis en place parce qu'ils ont décidé. C'est toujours la volonté politique. Moi, je pense. Alors, je n'ai pas fait de politique politicienne, comme on dit, mais je suis engagée depuis très longtemps. Et je pense qu'au niveau de la société civile, il faut qu'on travaille davantage main dans la main avec les élus sur ces questions. Il faut arrêter d'être chacun dans son couloir. Ça, c'est très important. Et l'Espagne, c'est l'exemple qu'il faut suivre, oui, ouais. en Europe, parce ouais. que les traités, on les a, les directives de l'Europe, on les a pour contrer... Excusez-moi, je me mouche en même temps.
Tout le monde est enrhumé aujourd'hui. Hein.
mais non, c'est très important parce que ils ont décidé, une fois pour toutes, qu'ils remettaient à plat toute la problématique des violences systémiques. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est la même chose au niveau de la planète. 50 000 féminicides par an, c'est-à-dire une ville moyenne...
50 000 féminicides par an
sur la planète, chaque année. Chaque année, vous rasez une ville moyenne de France.
Voilà.
Hein. Et ça, il faut bien qu'on en ait conscience. C'est que c'est un système, alors je vais dire un gros mot, patriarcal, ou au moins de domination masculine, qui fait que la violence envers les femmes est comme si c'était accepté.
Oui, mais c'est une réalité anthropologique et sociologique, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Mmh. C'est une réalité, effectivement, d'où la banalisation, justement, oui, de ces féminicides.
Alors,
oui.
Mais alors, vous voulez rebondir
oui,
sur ce
parce que,
dit,
ce que dit Jocelyne est très vrai, il faut une volonté politique. Mmh. Une volonté politique et il faut aussi des volontés de politique publique, c'est-à-dire qu'il faut des moyens. Rappelez-vous, il fut une époque où on n'avait même pas un ministère dédié. Ouais. C'était simplement raccroché à Matignon ou raccroché à tel ou tel ministère. Heureusement que ces choses ont été vues. Moi, je pense qu'il y a quand même toute la panoplie qui a été balayée. Maintenant, il faut des moyens. Et moi, ce qui m'intéresse en ce moment, beaucoup plus que tout ce que vous avez évoqué, qui est réel et qu'il faut avancer, parce que je suis une élue du 18e, donc je peux vous dire que la palette, elle est quand même assez exhaustive. Aujourd'hui, on voit ressurgir quelque chose qu'on n'avait pas il y a quelques années avec les nouvelles générations, oui. c'est tous les réseaux masculinistes qui reviennent en force aujourd'hui. Et sur quoi il va falloir travailler, parce que là, c'est sur les mentalités.
Ouais, mais il y a des associations d'hommes battus également qui existent aujourd'hui.
Non, mais moi, je vous parle des hommes masculinistes qui, aujourd'hui,
c'est 5% à peine.
Hein.
C'est
5%. Prône l'inégalité des sexes et l'inégalité des gens. Et ils font un tabac parce que beaucoup d'hommes, aujourd'hui, font de la résistance. Et je pense que si on n'évoque pas cette question qui est plutôt presque culturelle, on n'arrivera pas à avancer.
Alors, cause nationale, placée justement dans le cadre du deuxième quinquennat par le président de la République, Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est de l'affichage politique, ça c'est...
Écoutez, je ne sais pas si mesdames les élus peuvent répondre, mais moi, en tant que société civile, je peux répondre.
Jocelyne Adrian, oui, bien sûr.
Oui, je peux répondre, j'ai la liberté de parole. Je pense qu'effectivement, je pense qu'il était certainement convaincu au départ, mais force est de constater qu'on n'a pas suffisamment de moyens mis avec... cette volonté, cette grande cause.
En un mot, ça veut dire que c'est du marketing politique.
Je ne sais pas.
Pour rappeler les choses, parce que vous avez une liberté de temps, vous pouvez vous permettre, chère Jocelyne.
Je pense qu'il faudrait effectivement qu'on ait vraiment volonté que ce soit une cause importante et non pas quelque chose d'accessoire qu'on sort quand on en a besoin.
Oui, très rapidement,
vous avez
Nadia
raison,
Fautani.
Je pense qu'il faut les moyens des politiques, de nos politiques. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il faut que ça sorte du sphère féminin, ces questions-là, et que ça devienne un socle de la République, avec les moyens et la transversalité, et surtout la prévention. Il faut aller dès les petites classes, prévenir Absolument. Et regarder comment s'orientent les évolutions. Et donc, c'est deux jambes, et avec des moyens que vous avez si justement dit que nous n'avons pas en France. Donc, l'exemple espagnol est très bien. À nous d'en faire un... alors, pas la troisième priorité du quinquennat de Macron, mais...
Une priorité.
On va dire ça comme ça.
Oui, vous avez raison.
Alors, le dernier féminicide, Fadela Meal, ça va vous faire réagir. Le dernier féminicide, la personne qui a été victime, justement, qui en est décédée, bien sûr, elle avait le téléphone grand danger et elle n'a pas su... C'est pas qu'elle n'a pas su, elle n'a pas réussi à l'actionner. Alors que... quand on a même les outils, parce qu'il y a eu des outils qui ont été développés pour freiner ces féminicides. Et bien, le dernier, hein, en date de 2025, la femme en question avait ce téléphone grand danger. Vous voulez réagir,
Oui, je vais réagir parce que vous parliez de volonté politique. Oui, si on ne veut pas que cette cause soit complètement cosmétique et une variable d'ajustement, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les fins de mois, c'est quelque chose de plus important que l'égalité homme-femme. Moi, vous savez, j'ai des exemples très précis parce qu'on parle des violences physiques, sexuelles, mais aussi les violences psychologiques. Le fait de ne pas pouvoir entamer une carrière politique du fait de son genre, c'est une violence psychologique.
Totalement.
Et donc, moi, je vois bien aujourd'hui, nous avons un pacte pour la diversité que j'adresse et pour la parité que j'adresse à tous les partis politiques. Et bien, vous savez, le seul qui m'a répondu et signé, c'est le MoDem. Et donc, aujourd'hui, il y a des résistances. Alors, je dis qu'il y a des résistances, comme on l'a vu d'ailleurs. C'est plus les dirigeants des partis que le peuple lui-même, que la société elle-même qui serait tout à fait intéressée.
Alors à ce propos, justement, Fadila Mehan et bien sûr les deux invités, vous pouvez également réagir, à savoir qu'il y a aussi la violence économique. Hein. Pas plus tard que ce matin, tout le monde en parlait, il y a un sondage qui a été fait sur les violences économiques. Et puis j'ai envie de dire un mot sur les disparités salariales, parce que depuis le 10 novembre, les femmes, il faut le dire, travaillent gratuitement. Voilà, mais... les violences politiques à l'intérieur des partis. Je ne sais pas si on peut les appeler violences, en tout cas des discriminations.
Il y a des violences sexuelles, et je peux vous assurer.
Mais moi, j'ai envie
parce
de parler...
que là où il y a le pouvoir, mais c'est la réalité.
Il y a des violences.
Bien évidemment. Et donc, après, il faut absolument... C'est pour ça que je demandais dans ce pacte...
Que dit votre pacte
qu'il puisse...
Que dit votre
pacte? Mais non, mais parce que je ne vais pas le reprendre rapidement, mais il dit qu'il y a des choses... il faut absolument de la transparence et le suivi par rapport à l'effectivité de cette parité, de cette diversité. Il faut qu'il y ait des référents aussi qui puissent accompagner. Il faut qu'on, quand on, dans une entreprise, on fait le bilan social fin d'année pour savoir comment fonctionnent ces termes-là. Eh bien, les partis politiques sont une organisation comme une autre. Et donc, il faut qu'il y ait de la transparence pour qu'on sache. Parce qu'on nous dit, oui, mais tout le monde, maintenant, c'est la parité, elle existe. Mais non, parce qu'il y a la loi.
C'est pas
maintenant.
Vrai.
Non, mais il y a
c'est
une loi.
Non, elle existe. Elle existe. Quand on donnera autant de ministères régaliens à des femmes qu'à des hommes,
Jocelyne,
au niveau des collectivités locales...
Et même sur
locales.
Les postes exécutifs... On voit que tout le monde sur les listes est égal, mais au moment de fonder, l'exécutif municipal, eh ben il y a les adjoints et il y a les hiérarchies dans les adjoints et il y a aussi
dans les portefeuilles surtout dans les portefeuilles.
Dans le choix des portefeuilles. Est-ce qu'on est dans une parité de façade et je vous donnerai la parole.
C'est encore ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une discrimination systémique qui repose sur un système que nous avons tous et toutes accepté depuis des siècles et des siècles, qui est de domination masculine. Et quand on a le pouvoir, vous le savez bien, tout le monde le sait, on aime bien le garder. Alors que effectivement, il faut changer de paradigme, il faut changer de lunettes sociales quelque part.
Mais les lois font bouger les lignes ou pas du tout ?
Alors, les lois font bouger les lignes, absolument, elles le font.
Oui.
Mais il faut encore qu'on applique. Et c'est l'application qui pêche partout dans le monde, c'est l'application qui pêche
Des
lois.
Il y a des partis qui sont verbalisés, qui acceptent de payer.
Et je voudrais revenir sur quelque chose, tu parles du plafond de verre, c'est-à-dire la quantité de femmes. Ok, non, la parité, mais moi je parle des parois de verre, c'est-à-dire le qualitatif. Elles sont élues, mais pour faire quoi?
Est-ce qu'il
y a des élus aux
nous
finances? Est-ce qu'il y a des élus à l'urbanisme?
Nadia Sotani.
L'axe de ma volonté d'intervenir, je pense que la loi elle a permis le quantitatif et aujourd'hui je pense qu'il faut aller vers le qualitatif.
Absolument.
Parce que aussi bien en politique que dans les grandes entreprises, combien de femmes sont dans le COMEX, combien de femmes sont PDG, de femmes sont DG, et en politique c'est pareil, on peut faire le même schéma. Donc la loi elle a permis, je pense, une chose qui peut être bien, c'est avoir des femmes. Et maintenant, il faut aller plus loin.
Mais Nadia Sotani, on a tendance à oublier que certaines femmes font de l'autocensure. Certaines femmes n'acceptent pas, elles ne se mettent pas en avant.
Ça, c'est pas possible.
Elles ont tendance à dire ça, c'est pas pour nous.
Oui et non.
C'est vrai ou pas?
Je pense que les hommes aussi nous dissuadent beaucoup d'aller au-delà en disant oh, oui, mais voilà, tu ferais mieux d'aller là, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, effectivement, ça dissuade, on ne nous encourage pas et on ne nous coache pas. pour aller plus
et
haut.
Puis,
et voilà, donc
et puis on a été.
Au-delà de cette loi de la parité, qu'est-ce qu'il faut penser?
Effectivement, c'est l'éducation. On a été éduqués, effectivement, à se mettre en doute et à douter de sa propre légitimité. Mais moi, je pense que c'est pas si mauvais. C'est pas l'éducation des filles qu'il faut refaire. C'est l'éducation des garçons. Donc, dès la plus petite enfance, regardez en Finlande, en Nouvelle-Zélande, regardez comme ils sont, ils enseignent l'empathie aux petits. C'est quelque chose qu'on ne
donc c'est au niveau de l'éducation qu'il faut travailler.
Je pense qu'il faut.
Non, mais alors, moi, je voudrais quand même dire quelque chose parce que moi, j'ai assisté à des commissions de sélection pour les candidatures. Et vous savez, quand on dit veut un poste, n'importe lequel, un homme se lève et dit je suis candidat.
Voilà qui est dit.
Point.
Voilà.
Une femme se lève et dit je suis candidate parce que je pense que sur cette thématique, je suis beaucoup plus.
Je suis compétente.
Je pourrais concilier ma vie familiale. Il y a cette intériorisation de cette infériorité qui est en elle. C'est pour ça que nous, les Marianne, on va accompagner ces femmes, mais surtout, on va faire des sessions de formation.
Alors, en sociologie, ça s'appelle la reproduction des schémas dominants.
C'est ça, et exactement. Face, il y a la question face, de la maternité pour la femme
caméra,
que les hommes n'ont pas.
Face caméra, voilà. Face caméra et micro ouvert, une phrase chacune. Que faut-il faire, justement, aujourd'hui, pour freiner, anticiper, prévenir les violences faites aux femmes? Vous êtes à l'écoute des auditrices de Radio Orient. Allez-y, Fadela Mehal.
Je vous passe mon tour.
Je pense qu'il faut en faire une cause nationale comme on l'a évoqué et puis mettre les moyens de nos politiques et des volontés pour combattre ce fléau.
Jocelyne Adrian, Mabtoul.
Je pense qu'il faut se recentrer sur des valeurs humaines, sur l'humanisme, sur le pacifisme et changer de lunettes sociales.
Voilà qui est bien dit. Changer de lunettes sociales. Fadela Mehal, face caméra, micro ouvert.
Bien sûr, je pense souvent à René Char qui disait, s'agissant des femmes, « Serre ton bonheur, va vaincre ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ». Et donc, c'est toute cette question-là, dans une simple phrase poétique.
Merci beaucoup, mesdames, d'être venues dans nos studios pour nous éclairer sur les violences faites aux femmes et bien sûr sur les avancées que nous espérons pour les années à venir. Merci à vous, amis auditeurs, de nous rester fidèles et je vous souhaite une excellente écoute.
À visage découvert, l'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.